Le service de l'information de CJSO en collaboration avec Lucie Del Parizeau, Meubles André Beaulieu et Contact Affaires présente On a des choses à dire avec Jean Lemay.
Ici Sylvain Rochon en remplacement de Jean Lemay qui reprend des forces à l'émission. Aujourd'hui, les 55 millions de dollars de Québec à l'administration portuaire de Montréal pour la phase de démarrage du projet d'expansion du port de Contrecœur. On parle à la mairesse de Contrecœur, Maud Allaire, et à sa prédécesseur, devenue députée de Verchères à l'Assemblée nationale, Suzanne Dansereau. L'annonce par Rio Tinto d'une usine de scandium à Sorel-Tracy, le directeur général de Ferrotitane, Guy Gaudreau, nous accorde une entrevue. Et puis, une première femme capitaine à la traverse Sorel-Saint-Ignace de Loyola, celle qui brise le plafond de verre ou bien les glaces du fleuve Saint-Laurent, est avec nous, Caroline Boisvert. On a bien des choses à dire après la pause.
Express Pub.
J'en avais assez de souffrir. L'alcool, la drogue et le jeu contrôlaient ma vie. J'ai essayé de m'en sortir seul, mais ça n'a pas marché. J'ai eu le courage d'appeler l'équipe de la Margelle et aujourd'hui, ma vie a changé. Fais comme moi, appelle 746-2788.
Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infectés par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec.
Il y a beaucoup de produits d'assurance disponibles et tout autant de compagnies d'assurance au Québec. Heureusement, chez Lucie Del Parizeau, notre passion est de vous conseiller afin d'obtenir les meilleures protections au meilleur prix. Pour l'assurance de votre entreprise, de vos biens personnels et vos assurances individuelles, votre courtier est votre meilleur allié. Lucie Del Parizeau, le plus important courtier d'assurance au Québec.
De neige, un 2 cm à peine dans le Grand Sorel-Tracy qui a débuté ce matin, qui va se poursuivre au long de la journée. Maximum prévu près de moins 4. Il y a un refroidissement éolien, on devrait ressentir moins 10, 5 cm d'accumulation en surplus pour ce soir et cette nuit, et on ressentira moins 9.
101.7 FM. De retour à On a des choses à dire, une présentation de Meubles André Beaulieu, Lucie Dale Parizeau, cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires.
Le 12 janvier dernier, les ministres Chantal Rouleau et François Bonnardel annonçaient une aide financière de 55 millions de dollars à l'administration portuaire de Montréal. Elle permettra de soutenir la phase de démarrage du projet d'expansion du port de Contrecœur. La mairesse de Contrecœur, Maud Allaire, est au bout du fil. Bon midi, Madame Allaire.
Bonjour, M. Rochon. Comment allez-vous?
Très bien. Vous étiez très contente le 12 janvier. Vous avez présenté dans votre enthousiasme l'expansion du port de Montréal comme une pièce maîtresse de la relance économique, pas juste contrecœuroise, québécoise. Alors, c'est très gros, cette expansion-là.
Bien, écoutez, c'est une bonne nouvelle qui vient vraiment confirmer l'importance de l'implication des divers paliers gouvernementaux dans la réalisation de ce projet majeur pour la ville de Contrecœur et la grande région métropolitaine. Il faut aussi toujours être reconnaissant de tous les gens qui ont travaillé en amont de ce projet-là. Et c'est beaucoup de gens, autant les élus vraiment de toute la grande région élargie, même celle de la CMM. On a reçu énormément d'appui, mais je ne veux pas oublier aussi tous les gens de la GRAP Logistique qui travaillent fort et beaucoup d'autres secteurs aussi au niveau de l'économie qui croient à ce projet-là depuis plusieurs décennies et qui mettent des efforts par-dessus efforts afin d'arriver aux annonces qu'on peut annoncer depuis déjà au moins 2 ans. Si je rappelle qu'on a annoncé aussi que la zone industrielle portuaire et le Grand Montréal est devenu une zone franche en juillet 2019. Mais aussi, il faut se rappeler de l'annonce importante qui a été faite par la Banque d'infrastructure du Canada dans le montage financier, où il y a 300 millions aussi qui est accordé pour ce grand projet qui vaut entre 750 millions et 950 millions. Oui. Donc, à chaque fois qu'on franchit un jalon important, on s'approche de plus en plus de la grande ligne d'arrivée. Et l'annonce du gouvernement est vraiment importante, le gouvernement du Québec, pour leur implication à travers ce grand projet majeur pour notre ville, pour nos deux belles MRC à proximité, Pierre-de-Sorel, où il y a toujours aussi un appui très considérable de tous les maires de ce secteur, et bien sûr, la MRC Marguerite-Douville, qui a toujours envoyé des lettres d'appui, des mémoires. Donc, je remercie tous les maires de ma MRC de cet appui constant.
Oui. Je me souviens, Maude, je me souviens, je m'excuse
de la prédécesseure de Mme Dansereau, qui travaille d'une manière acharnée depuis de nombreuses années.
Bon, je me souviens vous avoir vu pas longtemps après l'élection du gouvernement de François Legault avec le livre de M. Legault à la main, « Cap sur un Québec gagnant, le projet Saint-Laurent ». C'est une lecture qui vous avait donné de l'espoir, pour ne pas dire qui vous avait fait triper.
Ben, écoutez, ça faisait vraiment longtemps. Vous savez que je fais beaucoup de lectures, que je me renseigne, que j'aime toujours croire, même en prenant des cours universitaires. Mais j'avais mis de côté ce livre-là que je voulais vraiment lire. Donc, cet été, je me suis donné du temps pour en faire la lecture. Et oui, vraiment, je le suggère à tout le monde parce qu'il y a une nouvelle mouture de la stratégie maritime qui est vraiment dirigée par la ministre Chantal Rouleau, qui est la ministre déléguée au transport maritime, bien sûr, et de la grande région métropolitaine, et qui fait un travail très efficient, et que j'ai bien hâte de voir cette nouvelle mouture, et qu'elle est très bonne aussi pour mobiliser tous ces gens à pouvoir participer, à faire en sorte que cette stratégie soit porteuse pour un corridor fluvial, économique, reconnu mondialement.
Le projet frôle, le projet...
de M. Legault, quand on en fait la lecture, on comprend la vision à long terme de où ce qui s'en va. Et oui, Contrecœur, bien sûr, fait partie de ce livre. Il est bien mentionné.
Le projet frôle le milliard de dollars. On parle de milliers d'emplois, de 1,5 million de containers, parce que c'est un terminal de containers qui va s'installer sur des centaines d'hectares de terrain sur l'une des rives de notre majestueux Saint-Laurent. Est-ce que c'est du développement durable?
Oh, bien sûr, c'est du développement durable parce que le transport maritime, c'est lui qui cause le moins de GES et ainsi que le transport ferroviaire. Donc, vous savez que Contrecœur, avec le projet du terminal portuaire, qu'est-ce qui va être développé vraiment? C'est vraiment mettre l'accent sur le transport maritime, que le port de Montréal est déjà la porte d'entrée de l'Est, de l'Amérique, pour pouvoir aller desservir aussi l'Ontario et le Nord américain. Donc, c'est sûr que en entrant par Contrecœur, c'est sûr qu'on a déjà les voies ferrées la voie ferrée qui sera mise aussi dans l'équation pour pouvoir diminuer les GES. Donc, c'est sûr que plus qu'on se rapproche de Montréal, moins qu'on a utilisé de transport routier un peu plus loin dans d'autres régions du Québec. Mais chacune des régions du Québec, dans le plan de Saint-Laurent, sera valorisée et apportera aussi leur apport dans ce développement fluvial économique majeur.
Bon, Maude Allaire, on ne fait quand même pas d'omelette sans casser deux, vous allez en convenir, puis ça, c'est une sacrée grosse omelette. Comment allez-vous vous assurer, puis je continue mon analogie avec la cuisine, là, comment vous allez vous assurer que ça ne salisse pas trop la cuisine, cette grosse omelette-là?
Bien, écoutez, je pense que c'est un projet. Le port de Montréal, vous le savez, est à Contrecœur depuis déjà les années 1950. Depuis 1980, c'est déjà en étude et c'est Contrecœur qui a été sélectionné comme la meilleure géolocalisation pour construire l'extension du port de Montréal avec un terminal portuaire. Donc, ensuite, il y a eu l'achat de plusieurs hectares de terrain. Mais ensuite, il y a eu des consultations avec autant les communautés autochtones, autant les villes environnantes, autant les différents secteurs aussi, autant, je peux dire, économiques ou environnementales. Et bien sûr, vous savez que l'Agence environnementale canadienne a fait aussi une étude, mais des consultations publiques au mois de février 2018. De là, on est ressorti une très grande étude avec une forte analyse de tout qu'est-ce qui pourrait être un enjeu environnemental ou les espèces en péril. Donc, le port de Montréal a travaillé vraiment d'une manière, je pourrais dire, pas acharné, mais en continu, en collaboration, à toujours fournir les études nécessaires avec ardeur, rigueur, c'est les termes que je cherchais, pour sortir toutes les études, même ils ont fait des études supplémentaires, des analyses supplémentaires, ils ont répondu à des questions. Donc là, on est rendu que au mois de novembre, l'Agence environnementale a déposé leur rapport pour leur dire que présentement, ce projet-là est viable et que les mesures d'atténuation et de mitigation que le port de Montréal, ben ils sont satisfaisantes là. Donc il y a eu d'autres consultations pour entendre encore d'une manière la population qui aurait peut-être manqué celle de 2018 pour ajouter d'autres commentaires. Donc moi, faut faire confiance quand même, c'est des chercheurs, là. C'est des gens, des professionnels, des spécialistes dans le domaine de l'environnement. Donc c'est sûr qu'ils vont faire en sorte de demander les mesures de mitigation et d'atténuation nécessaires à ce que toutes les espèces puissent quand même continuer à se reproduire et croître dans leur environnement et aussi préserver l'eau les écosystèmes et la biodiversité du fleuve Saint-Laurent.
Bon, Contrecœur a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années. On en a souvent parlé, vous et moi, ensemble. On pourrait n'avoir rien vu encore. Quand des centaines et des centaines de personnes travailleront là, elles voudront, pour certaines, s'établir pas loin. C'est un défi pour votre municipalité. Ça, c'est un beau pari, mais c'est un pari pareil. Est-ce que ce développement-là est tout prévu dans votre tête, est tout prévu par vos équipes?
Mais écoutez, c'est sûr que les gens entendent beaucoup parler depuis une décennie déjà du port de Montréal, l'expansion du terminal portuaire à Contrecœur. Et je peux vous confirmer que depuis cette décennie-là, la population de Contrecœur est passée de 5 600 à 9 400, le décret qu'on a reçu cette année. Donc, on est encore une année en retard. Donc, oui, c'est sûr que il reste encore des terrains, des endroits où on peut encore développer, mais également aussi, c'est tout le développement commercial qui vient se joindre à ça et le développement aussi communautaire et des milieux de vie qu'il faut adapter pour donner des services à cette population qui s'en vient chez nous pour profiter aussi de ce bel environnement que Contrecœur est capable d'offrir. Donc oui, également, je sais que dans les villes aux alentours, ils ont des endroits aussi, des lots pour construire aussi du résidentiel.
Où en sommes-nous dans le calendrier de ce projet-là? Est-ce qu'on est encore loin du début des travaux? Bon, il y a toujours des autorisations environnementales à obtenir. Vous avez l'air très, très confiante qu'elles vont arriver bientôt. Est-ce que les travaux débutent tout de suite après? Combien de temps durent-ils, ces travaux-là? Et quand les activités portuaires débutent-elles?
Donc, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui a été mentionné à la conférence que vous avez assistée ou ce que j'ai pris parole? Monsieur Imbeau, le nouveau PDG qui a pris place suite à la retraite de Madame Sylvie Vachon, qu'il faut vraiment reconnaître son grand apport dans le développement économique du port de Montréal et la réalisation de toutes les études effectuées pour le terminal portuaire de Contrecœur. Donc, Monsieur Imbeau nous a dit que, selon eux, si tout se déroule comme est prévu, les travaux devraient commencer en 2021 pour s'échelonner jusqu'en 2024. Et dans la phase de construction, on parle de 5 000 emplois dans différents corps de métier, autant des professionnels également ou du monde aussi de direction, des postes cadres. Donc, c'est sûr que ça va amener une affluence à contre-cœur et nous devons aussi être en mesure d'avoir les installations autant au niveau de la restauration, des endroits aussi pour pouvoir loger ces gens-là. Donc, je pense que tout se met en place parce que là, avec cette annonce-là du gouvernement provincial, ça vient juste mettre encore plus l'importance de ce développement-là majeur dans la relance économique du Québec. Mais je pense qu'aussi le fédéral a besoin aussi d'avoir ce grand plan-là de relance économique avec qu'est-ce qu'on entend aussi avec le Keystone XL qui ne se fera pas selon le décret de M. Bédum.
Oui. Merci beaucoup, Maud Allaire. Merci de nous avoir accordé cet entretien.
Merci, ça me fait vraiment plaisir, M. Rochon. À bientôt.
Merci. Il n'y a pas que Maud Allaire qui était enthousiaste le 12 janvier à l'annonce des 55 millions de dollars de Québec pour la phase de démarrage de l'expansion du port de Montréal à contre-cœur. Il y a sa prédécesseure à la mairie, devenue députée de Verchères, Suzanne Dansereau. Bon midi, Madame Dansereau.
Bonjour, vous allez bien?
Je vais très bien. Ça fait longtemps que vous rêvez de cette expansion. De 1988 à 1992, le port de Montréal a acquis 468 hectares de terrain, incluant 4 kilomètres de berge et un terminal en fonction depuis les années 50 à Contrecoeur. Vous êtes élu conseiller municipal à Contrecoeur en 93, vous l'êtes jusqu'en 2001, puis vous devenez mairesse en 2001 pour le rester jusqu'en 2017. Alors le projet, vous le connaissez, vous le chérissez, vous aviez hâte que ça débloque.
Écoutez, moi, j'ai même vu, dans le temps, j'ai rencontré M. Tadéo, parce que c'est lui, à l'époque, avant, il y avait passé deux autres PDG là, avant Mme Vachon, mais je pense qu'il y a eu M. Pelletier, mais c'était M. Tadéo, vous devez vous souvenir de ça. C'est lui qui avait fait l'acquisition des terrains. Et quand vous dites 4 kilomètres, moi, je pense que c'est plus 3 kilomètres, mais gars, ce sera vite.
J'ai pris ça sur le site du port de Montréal, j'imagine qu'ils sont au courant, enfin... On va imaginer. J'ai pris ça sur le site du port de Montréal. J'imagine qu'ils sont au courant. Pourquoi?
Ah, OK, c'est bon.
Pourquoi ce site-là?
On a toujours dit ça, mais c'est pas grave. Là, c'est un détail.
Pourquoi ce site-là, à contre-cœur, Suzanne Dansereau, est-il un emplacement à ce point stratégique pour l'opération d'un terminal à conteneurs moderne et la croissance des activités du port de Montréal?
Quand on parle un petit peu là, d'histoire, parce que vous parliez de l'acquisition du port là, dans ces années-là qui ont été faites, faut pas oublier qu'il y avait Iron Ore. Je pense que c'était même M. Mulroney dans le temps qui était le PDG de cette compagnie-là. C'est que ça a toujours été un secteur qui a eu de l'opération maritime, si on veut. Donc, c'est juste une belle continuité. Et de toute façon, pour les gens qui connaissent Contrecoeur, c'est situé dans une zone qui est vraiment industrielle lourde. Fait que c'est tout à fait convenable. Puis je pense que M. Tadéo, dans le temps, était un grand visionnaire quand il a décidé d'acquérir ces terrains-là.
En 2016 et 2017, l'administration du port de Montréal consultait les parties prenantes locales, organisait des ateliers thématiques, des journées portes ouvertes à contre-cœur Verchères. Est-ce un projet attendu par la communauté qui a son plein assentiment, qui fait triper la communauté autant que vous?
Regardez, moi je peux vous dire que dans le temps, là, j'ai tout assisté à ces consultations-là. Et on voyait une très grande acceptabilité du projet. Les gens posaient des questions, puis c'est tout à fait normal. Mais je vous dirais même plus que ça, ce projet-là là, était tellement tendu et est tellement tendu puis depuis longtemps qu'à un moment donné, les gens n'y croyaient plus. Parce que les gens me disaient, ça fait 25 ans qu'on nous en parle, arrêtez quand on a recommencé à en reparler plus sérieusement, il y a quelques années. Là. Les gens y croyaient plus. Bon, c'est certain qu'il y a des petits groupes, mais c'est vraiment, là, je ne sais pas si je ne l'ai pas en pourcentage, là, mais c'est vraiment minime, qui s'interroge sur l'environnement, etc. Mais c'est tout récent. Comme on dit, parce que quand il y avait les audiences, tout était beau, les gens venaient en grand nombre parce que c'était un grand intérêt. Puis comme je vous dis, c'est un secteur qui a déjà ArcelorMittal puis qui a des grosses compagnies. Et ces gens-là attendaient le projet. Fait que à ce niveau-là, je pense que c'est un projet qui est bien entendu. Vous savez, on ne pourra jamais satisfaire 100%, que ce soit des électeurs ou de la population, là, mais je vous dirais qu'au-delà de 90%, les gens attendent ce projet.
2024, si tout va bien, mise en activité du terminal, début des opérations portuaires. Comment vous imaginez contre-cœur Suzanne Dansereau en 2024 quand ça va s'activer tout ça?
Ben, regardez, moi, là, il manque... c'est sûr que là, comme mairesse, j'étais peut-être plus près de l'administration. Je suis encore près de l'administration, mais c'est un autre niveau. Moi, je vous dirais, premièrement, contre-cœur, puis tantôt, j'entendais là, l'entrevue à Maud, là. Bon, puis elle vous l'a dit, il reste quelques terrains. Là, je sais plus, j'ai plus le décompte exact, mais d'après moi, c'est en bas de 400 terrains là, qui doivent rester pour la construction. Au niveau du transport, bon, à un moment donné, ils devaient emprunter la montée de la pierre, le port, là, je parle toujours le port, la montée de la pierre, puis dernièrement, j'ai entendu, c'est la montée de la pomme d'or. Fait que ça, j'ai plus ces détails-là, parce qu'on devrait, on devait faire un overpass, excusez l'anglicisme.
Un viaduc?
Je sais pas comment.
Un viaduc?
Non, un viaduc, exact. Qui aurait passé par-dessus la 132. Ça, j'avais même vu les plans. Mais là, on n'en a plus parlé. Fait que, comme je dis ça, je suis un peu moins au parfum. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, la capacité de contre-cœur, parce qu'on est dans le CMM, est limitée. OK? Au niveau de développement, que ce soit résidentiel ou commercial, là. C'est limité, mais moi, j'ai toujours dit que ça déborderait sa région, puis tant mieux.
Ben, c'est ça, j'allais vous dire, j'allais vous dire ça, c'est le plus grand projet d'expansion de l'histoire moderne du port de Montréal, retombée économique de 470 millions de dollars par année. Ça fera pas de mal non plus à l'économie sorelloise.
Non, c'est ça, puis même en construction, il va y avoir des retombées. Parce que, on parle pas... La construction, c'est plusieurs milliers de travailleurs. Mais quand ça va être tout construit à terme et tout, on parle de 1000. Mais 1000, là, nous autres, on n'a pas 1000 maisons, là. Hein? Fait que ça va retomber. C'est 1000 personnes vont venir travailler. Ce ne sera pas 1000 travailleurs de contre-cœur. Mais tu sais qu'il y en a le tiers de contre-cœur. Mais il va toujours bien rester 600 qui vont venir de la région, autant du coin de Varennes, Sorel-Tracy, que de votre coin à Sorel. Fait que moi, je pense que c'est aussi un plus avec Sorel-Tracy. Vous avez toujours été des voisins et des partenaires avec nous, avec la ville de Contrecœur, mais avec le comté aussi. On est toujours, que ce soit avec le parc des Grèves, etc., des voisins qui ont toujours bien collaboré. Puis nous sommes certains qu'il va y avoir plein de travailleurs de Sorel-Tracy, puis j'en suis très fière. Comme c'est le cas à ArcelorMittal, puis qu'on a des gens d'ici, nous autres, qui travaillent à QIT, ou c'est des baisses de charges, puis le temps de voiture, ben c'est quoi, une vingtaine de minutes, là, d'une place à l'autre, d'une ville à l'autre. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a des retombées pour Sorel-Tracy et pour vos commerces aussi, c'est indéniable.
Suzanne Dansereau, députée de Verchères, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cet entretien, c'était fort intéressant.
Ben, ça m'a fait plaisir.
Merci. À bientôt. C'est drôle parce que Mme Dansereau disait il y a des gens de contre-cœur qui travaillent à QIT. Ben justement, dans quelques instants, de retour après la pause, on va parler au directeur général de Rio Tinto Ferrititane, Guy Gaudreau, de cette nouvelle usine de scandium.
Il y a beaucoup de produits d'assurance disponibles et tout autant de compagnies d'assurance au Québec. Heureusement, chez Luciedel Parizeau, notre passion est de vous conseiller afin d'obtenir les meilleures protections au meilleur prix. Pour l'assurance de votre entreprise, de vos biens personnels et vos assurances individuelles, votre courtier est votre meilleur allié. Luciedel Parizeau, le plus important courtier d'assurance au Québec.
Bon, qu'est-ce que je pourrais bien préparer pour le prochain repas?
Vous êtes fatigué de préparer tous vos repas et vous aimeriez vous gâter un peu? Voyez la liste des restaurants de la région qui offrent un service de commande à emporter et ou de livraison durant la période de fermeture des salles à manger sur la page Facebook de CJSO ou sur cjso.ca. Encouragez les restaurateurs de chez nous. Une invitation de CJSO et du magazine Bravo.
Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infecté par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec.
Afin de mieux planifier votre prochaine randonnée en motoneige et pour profiter des meilleures conditions, nous vous invitons à écouter la chronique sur les conditions de sentier motoneige diffusée à tous les jeudis 8h40. Vous obtiendrez un résumé complet concernant les conditions des sentiers et l'organisation des différentes activités. Les conditions sentier motoneige, une présentation de la Halte des 103 îles, Météo Richer et Frères Inc. et Performance NC.
FM. De retour à On a des choses à dire, une présentation de Meubles André Beaulieu, Lucie Dale Parizeau, cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires.
Rio Tinto deviendra, apprenait-on la semaine dernière, le premier producteur d'oxyde de scandium de haute qualité en Amérique du Nord grâce à une nouvelle usine au complexe métallurgique de Rio Tinto Ferritstan à Sorel Tracy. On en parle avec Guy Gaudreau, directeur général de RTFT. Bonjour, M. Gaudreau.
Bonjour, M. Rochon. Ça va bien?
Ça va bien. On va voir monter une nouvelle usine où il y a un module de production qui va apparaître dans vos installations actuelles?
Présentement, on est en construction d'un module qui va être à l'intérieur de l'usine d'UGS sur le site de Rio Tinto Ferritstan, ici à Sorel. Donc, on est en construction.
Production de 3 tonnes par année d'oxyde de scandium. On tombe pas par terre, mais on devrait, parce que selon ce que j'ai compris, 3 tonnes, c'est beaucoup pour ce minéral critique. Expliquez-nous ça, puis tant qu'à faire, expliquez-nous donc aussi le terme minéral critique. Pourquoi critique?
Bon, premièrement, effectivement, 3 tonnes, ça peut paraître pas beaucoup pour les gens, mais le marché mondial actuellement est alentour de 15 tonnes. Donc, à 3 tonnes, on va être un joueur très important. En plus, on va être le joueur principal en Amérique du Nord, parce que présentement, le scandium est plutôt extrait au niveau de la Chine. Donc, nous, avec 3 tonnes, on devient un producteur très, très important. Donc, nous, comment on va aller chercher ce scandium-là?
Oui, mais avant, le minéral critique, pourquoi on dit ça critique?
Ben, critique, c'est un élément du tableau périodique et c'est des terres qui sont rares, qui sont dures à extraire et qui ont des propriétés très importantes pour certaines industries. Comme le scandium.
OK, parce que dans le langage populaire, quelque chose qui est critique, c'est pas nécessairement positif, mais dans ce cas-là, c'est très positif. OK,
positif.
Je voulais éclairer ça. C'est avec les sous-produits issus de votre production de dioxyde de titane que vous produisez le scandium. Comment vous avez découvert que vous pouviez produire du scandium avec les sous-produits de votre production d'oxyde de titane?
Ben, écoutez, comme vous savez, à Sorel, on a un centre de technologie très important depuis 70 ans qui accompagne l'usine. Depuis 5 ans, les gens ont regardé ce qu'on avait dans notre procédé d'UGS, dans la liqueur de procédé, et on avait du scandium. Donc, ils se sont mis au travail pour trouver la façon de l'extraire de façon économique, et ça a pris 5 ans à trouver, et les gens ont été très tenaces, très inventifs, et on a réussi à faire un procédé qui va être rentable pour cette usine-là. Donc, centre de recherche qui continue à innover puis à faire partie de l'histoire de Sorel.
Ah oui, c'est bon. Vous faisiez quoi jusqu'ici avec ces sous-produits-là?
Ben, lui, le scandium, en fait, c'est un projet en même temps qui est environnemental parce que c'est un rejet, en fin de compte, de l'usine d'UGS. Donc, ce 3 tonnes-là, ça en allait dans notre site d'enfouissement. Donc aujourd'hui, on valorise vraiment cette terre-là et on en donne la valeur.
Ah, c'est bon ça. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, ça?
Ben, c'est une bonne partie. Ça commence dans le début de la chaîne, là, c'est très bon. C'est le début du circulaire, effectivement.
Bon. On fait quoi avec du scandium?
Écoutez, on a l'oxyde lui-même qui est utilisé dans les piles à combustible. Est utilisé dans l'éclairage à haute densité. Et aussi, on est est en partenariat avec le Saguenay, avec Rio Tinto Aluminium, et on va faire de l'aluminium scandium, c'est-à-dire qu'on va mélanger la poudre de scandium avec l'aluminium, qui va faire qu'on va rentrer dans des marchés de haute technologie, de la défense, l'aéronautique, les changeurs de chaleur, qui va faire un alliage qui est vraiment beaucoup plus résistant au niveau mécanique, au niveau de la résistance à la chaleur et la corrosion. Donc, deux sources, on va vendre de l'oxyde directement à des producteurs et on va faire de l'alliage aluminium-scandium aussi.
OK. Rio Tinto Veritstan, vas-tu se mettre riche avec ça?
Ben écoutez, ça va dans le bon sens. Nous, on a un plan pour aligner cette usine-là pour son futur. Et puis, quand on est capable de créer de la valeur avec un résidu, c'est sûr que ça va dans le bon sens. Si on le fait, c'est parce que c'est rentable. Puis, on espère aussi de continuer à croître. On va commencer par un 3 tonnes et on va suivre le marché. Donc, ça va être modulaire, nos équipements. Donc, on va être capable de monter à 6 tonnes, 9 tonnes, etc. Donc, présentement, c'est une première unité de démonstration de 3 tonnes.
Et notre communauté, la communauté sorelloise, s'enrichira-t-elle de cette production de scandium, M. Gaudreau? On parle d'une dizaine d'emplois. Est-ce, outre cette dizaine d'emplois, la consolidation des centaines d'autres qu'on trouve chez nous?
Parce qu'effectivement, vous avez raison, c'est à peu près de 7 à 10 employés qui vont être requis. Et à chaque fois qu'on donne la rentabilité à notre usine, ce que ça fait, c'est que ça consolide 2000 emplois. On a quand même 1400 employés de Rio Tinto sur le site et l'équivalent de 600 entrepreneurs qui nous soutiennent.
Vous venez du Saguenay?
Oui, oui.
Vous devez être content parce que vous avez parlé d'aluminium tantôt, aluminium scandium, là?
Ben, c'est une belle synergie, hein? Énergie, on est capable de travailler ensemble puis de créer de la valeur pour une usine comme nous ici à Sorel. Donc, c'est sûr que d'avoir ces liens-là, on est de plus en plus très proches. Donc, on essaie de créer de la valeur puis d'échanger nos meilleures pratiques. Donc, on est très contents d'être en partenariat avec eux.
L'avenir de Rio Tinto Ferritstam, elle est dans le scandium et dans quoi d'autre? Vos équipes de recherche, est-ce qu'elles sont sur d'autres pistes que vous ne nous révélerez évidemment pas aujourd'hui?
On a un centre de technologie qui travaille très fort, qui travaille très bien avec les employés de production. Et on est capable maintenant d'améliorer notre technologie de nos fours. On a travaillé aussi très fort à développer des nouveaux produits présentement qu'on est en train de tester sur le marché. Donc, ça fait partie de la stratégie là, pour assurer le futur de cette usine-là, de développer des produits, de continuer à développer des produits. Puis effectivement, on a travaillé très fort entre autres dans la dernière année.
Parce que QIT Ferritstan, le QIT, là, Iron and Titanium, comme on disait autrefois, à quel âge cette usine-là serait le tracé?
Ben écoutez, on était fiers l'an passé, on a célébré 70 ans. C'est assez incroyable. Et puis, on a passé à travers un paquet de crises, à travers les 70 ans, puis c'est drôle parce que celle du COVID, on est encore dedans, mais on a à date réussi à passer bien à travers, mais ça a 70 ans. Donc, par contre, c'est une usine qui est quand même technologique, qui a été bien entretenue. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de donner les conditions gagnantes pour assurer son futur.
Oui, parce que quand vous avez dit ça tantôt, on a fêté 70 ans, c'est quand même incroyable. J'aime ça, puis j'aime pas ça que vous disiez ça, incroyable. Parce que vous savez qu'ici, la peur de bien du monde, c'est qu'elle finisse un jour cette usine-là par arriver au bout de sa vie. Là. Et on a vu disparaître ici plusieurs grandes entreprises, des multinationales qui procuraient beaucoup d'emplois, qui ont fermé leurs portes. Alors, le cauchemar que ça arrive dans le cas de QIT, il y en a qui le font. Alors, il se voit peut-être apaisé par l'annonce de la semaine dernière. Est-ce que Rio Tinto a encore de bonnes années devant elle?
Ben écoutez, moi, j'ai opéré des usines de 80 ans et de 100 ans là, en France et puis au Saguenay. L'avantage marqué qu'on a dans notre usine ici, RTFT, c'est deux éléments majeurs. Là. Je dirais c'est la passion des gens et c'est notre centre de technologie en termes d'innovation. Et c'est ça qui est en train de nous positionner pour le futur. Donc, des usines comme les nôtres qui ont 70 ans, ça prend des gens passionnés, des gens impliqués, mais surtout aussi un centre de technologie très fort. Et c'est ça qui nous démarque beaucoup par rapport à l'industrie.
Ben en passant, la passion, on la sent chez vous.
Merci. Oui, j'adore ça.
La COVID, vous parliez de ça tantôt, on sait que le gouvernement a demandé aux entreprises de réduire leurs activités. Est-ce que vous avez chez QIT Rio Tinto réduit ça à l'essentiel? Comment ça fonctionne?
Oui, bien écoutez, on a réduit ça au minimum. On a depuis le mois de mars l'an dernier au-delà de 300 employés qui travaillent en télétravail, comme on dit. Et puis, présentement, jusqu'au 8 février, c'est seulement que les employés, les organisations d'opération et de maintenance qui sont sur le site et certains projets. Donc, on a réduit de beaucoup les interactions à l'usine. Puis, on a mis beaucoup de mesures. Puis, je suis très fier et très content de la réaction, la participation de nos employés, des syndicats qui ont été capables, avec nous, de mettre ça en place, de respecter les mesures, de sorte qu'on a été impacté de façon très minimum, si on peut dire, comparativement aux autres industries manufacturières.
Bien, merci beaucoup, Guy Gaudreau, d'avoir accepté notre invitation. C'était très intéressant de jaser avec vous. J'espère qu'on va pouvoir se reprendre.
Ça fait plaisir. Puis encore, merci à tous les employés, à tout le monde. Puis on continue à avancer. Vous pouvez compter sur nous.
Merci. C'est toujours intéressant aussi d'entendre, ça fait plaisir. Hein? Ah oui, ça nous amène au Saguenay, ça. Après la pause, chers amis, la première femme capitaine de traversier à Sorel-Tracy, on va parler à Caroline Boisvert.
Tout comme pour l'émission, on a des choses à dire. Le magazine Contact Affaires vous fait connaître nos entrepreneurs, les enjeux et les réalités de notre vie économique régionale à travers des dossiers d'actualité. Publié deux fois par année depuis plus de 20 ans et distribué dans tous les lieux d'affaires de la région, le magazine Contact Affaires est édité par Cournoyer Publications. Il est disponible au bureau de Cournoyer Publications, à CJSO 1017 et en ligne sur contactaffaires.com.
Bon, qu'est-ce que je pourrais bien préparer pour le prochain repas?
Vous êtes fatigué de préparer tous vos repas et vous aimeriez vous gâter un peu? Voyez la liste des restaurants de la région qui offrent un service de commande à emporter et ou de livraison durant la période de fermeture des salles à manger sur la page Facebook de CJSO ou sur cjso.ca. Encouragez les restaurateurs de chez nous. Une invitation de CJSO et du magazine Bravo.
Chez Meubles André Beaulieu, nous tenons à vous rappeler que nous sommes de tout cœur avec vous dans cette situation particulièrement difficile en vous offrant un service d'urgence avec livraison gratuite pour tous vos besoins. Qu'il s'agisse de réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, laveuses ou sécheuses, contactez-nous sans tarder au 742-2708 ou encore par messagerie Facebook. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour de plus amples renseignements et suivre nos mises à jour quotidiennes.
De neige, un 2 cm à peine dans le Grand Sorel-Tracy qui a débuté ce matin, qui va se poursuivre au long de la journée. Maximum prévu près de moins 4. Il y a un refroidissement éolien, on devrait ressentir moins 10, 5 cm d'accumulation en surplus pour ce soir et cette nuit, et on ressentira moins 9.
101.7 FM. De retour à On a des choses à dire, une présentation de Meubles André Beaulieu, Lucien Dale Parizeau, cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires.
Caroline Boisvert brise un plafond de verre ou un fleuve de glace. Elle est devenue, il y a quelques jours, la première femme capitaine de traversier à Sorel. Bonjour, Caroline Boisvert.
Bonjour, bonjour.
Est-ce que quelque chose vous prédestinait à ça?
Oui, quand même. On a pas mal de famille qui travaille dans l'industrie du maritime. Fait que oui, j'avais déjà un bon pied, là, dans tous ces bateaux-là. Là.
Première femme capitaine de traversier à Sorel, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a, plusieurs à la Société des traversiers du Québec?
En fait, à Sorel, je suis la seule en ce moment. Puis, à travers le Québec, là, il y en a eu seulement une à Tadoussac. Fait que je serais donc la deuxième en ce moment.
Et là, comment on explique qu'il y a si peu de femmes?
C'est peut-être un domaine qui n'était pas tout à fait ouvert à ça. Mais là, de plus en plus, évidemment, là, on s'en va vers un domaine que les filles, les femmes peuvent toucher un peu plus. Là.
OK. Maintenant, Caroline, quel prérequis faut-il pour faire ce job-là? C'est pas donné à tout le monde, j'imagine.
Ben, ça prend quand même un bon leadership, je dirais, évidemment, puis une bonne gestion. Comme prérequis, ben en fait, moi, ça fait 14 ans que je suis pour la STQ. Fait que ça faisait un bon 10 ans là que j'étais comme officier. Okay. Lieutenant, c'est lui qui assiste le capitaine. Fait que là maintenant là, on vient de passer au nouveau poste de capitaine, ce qui me donne l'expérience pour le faire.
Comment devient-on capitaine de traversier? Est-ce qu'il y a des études? Y a-t-il un deck en navigation? Est-ce que ça existe?
Oui, il y a des decks, mais il y a aussi la possibilité de faire des formations d'urgence en mer. Quand on a assez de temps de mer, ben là, on peut utiliser, là, je dirais, là, cette opportunité-là un petit peu plus court qu'un deck avec les films là, qu'on va faire à Lévis, là.
D'accord. Vous le disiez, vous étiez lieutenante avant d'être capitaine. Est-ce que c'est un passage obligé, ça?
Oui, pour avoir l'expérience, en fait, pour avoir le temps de mer, oui, il faut être peut-être un an sûr. Et évidemment, là, l'expérience rentre en ligne de compte, c'est encore mieux, il donne encore plus la chance d'exceller dans notre travail.
Comme lieutenant, vous étiez appelé à seconder le capitaine. Est-ce que ça inclut effectuer des manœuvres, ça?
Oui, oui, on fait, dans le fond, c'est autant de manœuvres pour le lieutenant, puis aussi là, pour le chargement du navire, puis toute la gestion de l'équipage.
Quelle qualité une capitaine doit absolument posséder, là, les qualités les plus importantes, quelles seraient-elles?
Une bonne capacité là, de leader, évidemment, puis une bonne confiance en soi, là, en ses décisions, puis un bon équipage. Quand on est bien entouré, là, je dirais que ça l'a beaucoup là, pour nous aider.
La manœuvre la plus complexe, est-ce que c'est celle de rentrer au port? Quelle est la manœuvre la plus complexe?
Je dirais que rentrer au quai, là, c'est quelque chose qu'on fait tellement souvent dans notre journée que c'est plus vraiment compliqué.
Ah non?
Ce qu'on a de plus complexe, c'est vraiment les conditions climatiques. Quand on commence à avoir beaucoup de glace, ce qui n'est pas le cas cette année, mais beaucoup de glace, les conditions de visibilité réduites, même parfois nulles, que là, on fonctionne avec les radars, puis tout ça, là. Fait que c'est vraiment à ce niveau-là où les vents, les gros vents, là, quand on a des bonnes poussées de 40 nœuds, 50 nœuds, là, ça commence à être un petit peu plus challengeant, je dirais.
Votre saison de navigation préférée, quelle est-elle?
Ah, bien, c'est l'été, évidemment. Oui, l'été, on est bien, là. C'est comme les conditions sont tout le temps plus jolies, plus belles. Fait qu'on est plus relax, puis le tourisme aussi, c'est plus agréable pour ça.
Vos habiletés sont plus sollicitées en hiver. Vous le disiez, il y a la présence de glace, il y a les vents, ça complique la navigation en même temps. Et vous l'affirmiez aussi, c'est un challenge. Vous ne devez pas détester ça non plus?
Ah, ben non, c'est sûr que quand on a un petit peu plus de défis, là, nos journées sont un peu plus occupées. Puis non, c'est quand même quelque chose de bien, c'est super le fun. Là, je suis encore évidemment à mes débuts de capitaine.
Puis, c'est tout nouveau, là.
J'ai eu quelques mauvaises conditions à mon actif. Fait que oui, c'est quand même. On aime quand même ça, là, oui, évidemment.
Oui, c'est tout nouveau, là, capitaine. Ça fait quoi, quelques jours?
Oui, c'est ça. J'ai commencé il y a à peine quelques. Ben, je dirais là, que j'ai fait mon premier chiffre là, il y a une semaine et demie là, environ.
Et là, là. L'équipage, est-ce qu'il est bien préparé aux situations stressantes? Parce qu'il peut s'en présenter des situations stressantes. Vous n'êtes pas à l'abri de ça?
Ben non, évidemment, non. On se prépare très bien. On a des exercices là, d'urgence à toutes les 2 semaines avec l'équipage, dans tous les sens pour. Si on a un abandon, on a un homme à la mer, si on a un feu à bord, on a tout préparé avec ça et on a tout l'équipement de sécurité qu'il nous faut.
Quels sont les autres défis maintenant pour Caroline Boisvert? Est-ce que vous voyez un jour aux commandes d'un transatlantique, d'un navire de croisière?
Je dirais que pour l'instant, là, moi, ça me suffit très bien comme ça. Je suis très bien à bord du traversier. J'ai des belles horaires, on a des belles conditions. Puis ça me permet de retourner, évidemment, chez moi tous les soirs, ce qui est très agréable.
Ah, c'était un rêve pour vous? Est-ce que c'était un rêve de petite fille?
Peut-être pas petite fille gamine, mais dans un sens, je me souviens quand même avoir eu les deux pieds dans un bateau assez jeune. Fait que c'est quelque chose qui m'était quand même familier là, de pouvoir chauffer des bateaux de plaisance, échaloupes. Puis ensuite, ben, j'ai commencé à travailler sur un petit bateau de croisière du Richelieu. Fait que ça a quand même été rapidement vers, oui, le rêve de devenir un jour capitaine sur un navire.
Là, on est loin du petit yacht, là. C'est un mastodonte, un traversier. C'est immense.
Oui, quand même, oui.
Est-ce que vous vous sentez une lourde responsabilité? Il y a beaucoup de monde à bord.
Oui, on sent un petit peu plus de poids sur ses épaules, évidemment. C'est sûr qu'on a beaucoup de... Ben, je dirais pas de vie en jeu, mais quand même beaucoup de personnes là, avec qui qu'on peut traverser dans une journée. Fait que oui, ça pèse un petit peu plus sur les épaules.
L'été prochain, allez-vous faire de la navigation de plaisance ou si vous serez saturé avec les promenades d'une rive à l'autre du fleuve?
Ah, ben on aime quand même, j'aime quand même ça, faire de la navigation de plaisance pour les sports nautiques. Fait que non, je ne me tanne pas vraiment.
Alors, vous aimez l'eau?
Oui, oui, évidemment. Puis je pratique aussi la plongée sous-marine. Fait que oui, on aime bien ça, avoir les deux pieds dans l'eau.
Ben, on vous souhaite la meilleure des chances. On vous souhaite une longue carrière. J'imagine que vous souhaitez que d'autres femmes suivent vos traces. Vous souhaitez être la première d'une série de femmes capitaines de traversier à Sorel?
Oui, je souhaite vraiment. Puis j'ai même beaucoup de collègues qui commencent à venir me parler un petit peu pour savoir comment ça fonctionne, puis qui m'ont un peu suggéré de pouvoir aller en haut. Fait que je leur donne un petit peu plus de poussée à eux. Puis j'ai même eu des collègues qui m'ont dit que j'étais comme leur idole en ce moment.
Wow!
C'est un bel exemple à donner. Puis parce que les filles qui veulent venir me voir pour monter en haut, pour devenir officier, ben je les pousse à aller vers ça. C'est très possible.
Vous devez être assez fière de vous, en effet.
Certainement, oui.
Ah, puis,
oui.
Puis vos parents, j'imagine, le sont aussi.
Oh, oui, très fière.
Si je vous demandais, en terminant, les grandeurs et les misères de ce job-là, quels sont les grands avantages de ce travail-là? Qu'est-ce qui vous fait triper particulièrement? Puis s'il y avait des désavantages, quels seraient-ils?
Mes plus beaux avantages, c'est que j'adore le travail d'équipe. Fait que de travailler dans un bel environnement avec un équipage comme ça, fait que ça nous forme vraiment un bel esprit entre collègues. Puis ça pousse vraiment, là, j'adore vraiment pousser mon équipage à son mieux puis à les mettre à leur avantage. Fait que c'est ce que j'apprécie vraiment le plus là, au niveau de mon travail. Puis le fait que j'aime bien aussi être à l'extérieur, fait que ça me permet aussi d'être à l'extérieur ou à l'intérieur, tout dépendant où ce qu'on a besoin de moi. Mm-hmm. Et ce que j'aurais comme désavantage, pour l'instant, je ne sais pas trop quoi te dire.
Ah ouais, il faut que vous cherchiez, c'est bon signe.
Comment?
C'est bon signe, il faut que vous cherchiez pour trouver des désavantages.
Oui, un peu plus, oui, je dirais, oui. Je pense qu'on a une très belle emploi ici, là, sur les traversiers, on est très, très, très bien.
Merci beaucoup, Caroline Boisvert. Félicitations et longue carrière.
Merci beaucoup.
Et merci à l'ensemble de mes invités, Maud Allaire, Suzanne Dansereau, Guy Gaudreau et Caroline. Excellent après-midi, chers amis, à l'antenne de CJSO. Vous savez, il y a Valérie qui s'en vient, Valérie de l'après-midi à 15h30, musique, information, divertissement. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.